Radio Prague, les informations.
Arriva demande la suspension de la procédure d'appel d'offres sur l'extension de la centrale de Temelin. Le futur président Miloš Zeman ne recevra pas le représentant du parti l'IDEM. Le premier ministre turc à Prague ce lundi, Syrie, Union européenne et échanges commerciaux au programme. Le groupe français Areva a fait appel contre la décision du Bureau pour la protection de la concurrence économique qui a décidé de rejeter sa demande de suspension de la procédure d'appel d'offres sur l'extension de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud. Le groupe Areva avait été écarté de la procédure en octobre dernier et depuis ce moment-là, il cherche à être réadmis parmi les candidats à la réalisation de ce projet. Actuellement, il ne reste en lice que le groupe américano-japonais Westinghouse et la société tchéco-russe Mir 1200. Le Bureau pour la protection de la concurrence économique promet maintenant de se pencher sur le nouveau recours d'Areva. Le futur président tchèque Miloš Zeman recevra mercredi et jeudi les représentants de quatre partis parlementaires tchèques, le Parti social-démocrate, le Parti civique démocrate, le Parti Top 09 et le Parti communiste de Bohême et de Moravie. Il n'a pas cependant l'intention de recevoir le représentant du parti l'IDEM, un des trois membres de la coalition gouvernementale. Selon le futur président, cette formation créée après la scission du Parti Affaires publiques, VV, ne s'est pas présentée aux dernières élections parlementaires. Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite en République tchèque ce lundi avec son homologue Petr Nečas. Il a discuté notamment de la situation dans la région avec la crise en Syrie et du rapprochement de la Turquie avec l'Union européenne. Par ailleurs, un forum d'affaires auquel prennent part les représentants de plus d'une centaine d'entreprises tchèques et turques a figuré au programme de la journée. La semaine dernière, quatre spécialistes de l'armée tchèque ont rejoint la mission de l'OTAN chargée de veiller à la sécurité aérienne à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Suite à l'amnistie partielle accordée le jour de l'an par le président de la République Václav Klaus, environ 70% des détenus remis en liberté se sont inscrits dans les bureaux du travail à la recherche d'un emploi. Concrètement, il s'agit de 4500 personnes sur un total de 6344 prisonniers libérés. Par ailleurs, 4000 amnistiés ont formulé une demande pour l'obtention d'une aide financière immédiate exceptionnelle de 1000 couronnes, 40 euros. Cette aide peut être accordée plusieurs fois dans l'année, mais son montant total ne peut pas dépasser 13 640 couronnes, 545 euros. Selon l'Office de régulation énergétique, les anciens employés de cette institution ont probablement transgressé la loi en fixant les prix de l'électricité photovoltaïque. Les pertes subies par l'État à la suite de leur décision pourraient atteindre des dizaines de milliards de couronnes. Tels sont les résultats d'un audit présenté à la presse par la directrice actuelle de l'Office de régulation énergétique, Alena Vitaskova. L'Office a déjà demandé au ministère public de se pencher sur cette affaire. Météo. C'est un temps très couvert qui règne en République tchèque ce lundi, jour de la fête des Jarmila. Des chutes de neige se sont transformées en pluie au fil de la journée en dessous de 700 mètres d'altitude. Les températures varient entre 2 et 5 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité. Merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce lundi, nous parlerons tri sélectif. Les Tchèques sont en effet de plus en plus nombreux à trier leurs déchets. Il y aura également du sport et du tennis avec Guillaume Narguet qui reviendra sur le match de Coupe Davis remporté par les Tchèques sur les Suisses et l'engagement de Tomáš Berdych. Mais avant cela, place à nouveau à la question du logement social. Marion Dautry vous présente la situation dramatique de familles expulsées de leur logement dans la ville de Oustina de Labème. Bonne écoute à tous et à toutes. « La polémique autour de l'expulsion de 80 locataires d'un immeuble insalubre dans un quartier d'Austin à Alabama ne cesse d'enfler après la manifestation devant le ministère du Travail et des Affaires Sociales à Prague le 28 janvier dernier, mettant en cause l'absence totale de politique concernant les logements sociaux. Pendant ce temps, familles et associations cherchent tant bien que mal des solutions. Marion Dautry.
Ce n'est pas la première fois qu'une affaire d'expulsion attire l'attention des médias nationaux. Cette fois-ci, l'attention se porte sur la ville d'Austin-Adlabem, dans le nord du pays. 80 locataires y sont expulsés de leur immeuble insalubre par l'entreprise qui en est propriétaire et qui a décidé de le reconstruire. Les familles, majoritairement roms, résistent en argumentant qu'elles n'ont pas d'autre endroit où aller, des enfants malades à charge et surtout qu'aucune décision de justice n'oblige l'entreprise à les expulser pour reconstruire le bâtiment. Déjà expulsé une première fois d'un immeuble privé après qu'un plafond s'est effondré, tuant une femme et en blessant une autre, ces familles avaient d'abord été logées par la ville dans un gymnase, puis dans cet immeuble délabré du quartier de Krasné-Brzezno. Je ne suis pas préparée à déménager, je n'ai nulle part où aller. C'est ce que les familles expulsées déclarent toutes à la télévision tchèque et ce que la mairie réfute, argumentant qu'elle-même a rempli son devoir d'information et d'accompagnement envers ces familles et qu'elles doivent maintenant se prendre en main. Romana Matsova est la porte-parole de la mairie et s'exprime à la télévision tchèque. Ces gens savaient dès le début que ce logement ne pouvait être que provisoire. Personne n'est chassé de la ville. Ils ont reçu une liste de logements disponibles à Austin-Adlabem et dans les environs. C'est à eux maintenant de décider où ils veulent aller. Ils ont tous la possibilité de déménager. Des propos que soutient la CPI, l'entreprise propriétaire de l'immeuble. Selon sa porte-parole Marcela Vindelaurova, la situation était claire dès le départ et ces familles avaient le temps de trouver un autre logement. L'entreprise elle-même n'a pas à intervenir dans cette situation qui concerne les locataires et la mairie. Nous ne sommes pas dans une position qui nous permette d'influencer la situation. Nous avions un contrat de location avec les habitants et ces gens avaient l'usage du bâtiment en fonction de ce contrat. Ils ont été informés par la ville que c'était un logement provisoire. Ils avaient un préavis de 2 mois, donc je pense qu'ils avaient le temps de chercher un nouveau logement. Certaines familles ont réussi à en trouver un, donc ce n'est pas un problème collectif. Nous parlons d'un groupe d'individus qui n'est pas arrangeant ou qui, pour d'autres raisons, n'a tout simplement pas de logement. Certaines familles ont effectivement réussi à être logées ailleurs, principalement grâce à l'aide de l'initiative Logement pour tous, qui s'est mobilisée pour trouver des logements disponibles, obtenir l'accord des propriétaires et surtout qui travaille à rassembler les 25 000 couronnes, soit près de 18 500 euros, de cautions et de loyers nécessaires pour reloger toutes les familles. Une situation loin d'être nouvelle en République tchèque. En août dernier, c'est tout un quartier d'Ostrava, à l'est du pays, dont les habitants ont été expulsés. Les associations avaient alors accusé la ville de vouloir déplacer les populations roms et de n'avoir jamais pris la peine d'entretenir le quartier ou de le reconstruire avant d'en arriver à cette extrémité. Les propriétaires renvoient la responsabilité aux mairies, les mairies prétendent n'avoir pas d'argent à consacrer aux logements sociaux et renvoient à l'État, le ministère du Travail et des Affaires Sociales pris à partie par les manifestants à Prague le 28 janvier renvoie lui à celui du développement régional. Pendant que chacun se renvoie la balle, une étude réalisée déjà il y a quelques années fait état de 300 logements ou quartiers insalubres en République tchèque et de 80 000 personnes qui y sont logées, majoritairement des Roms.
L'intérêt des Tchèques pour le tri sélectif semble croître sans cesse. Ils sont désormais 2 sur 3 à utiliser les conteneurs de couleur qui leur permettent de réaliser cette opération. D'autant plus qu'ils seraient également les Européens qui produiraient le moins de déchets avec 316 kilos par personne et par an. Cependant, bien des progrès restent à accomplir car la majorité des ordures ménagères finit encore à la déchetterie et ne sera jamais recyclée. Blanc, bleu, jaune, vert et orange, ce sont les couleurs des conteneurs de tri que tous les Tchèques connaissent bien puisqu'ils ornent leurs villes et villages. Et ils semblent les utiliser de plus en plus d'année en année. 620 000 tonnes de déchets ont ainsi été triées en 2012 pour une moyenne de 40 kg par an et par habitant, soit 3 kg de plus qu'en 2011. Porte-parole de la société Ecocom qui gère ce système de conteneurs en République tchèque, Šárka Nováková se félicite de ces résultats.
Nous sommes vraiment bons en comparaison avec les autres pays européens. En ce qui concerne les emballages plastiques, nous figurons à la 2e place. Pour le reste, nous occupons également des bonnes places en ce qui concerne par exemple le tri du papier ou du verre.
Spécialiste de la gestion des déchets au ministère de l'Environnement, Ladislav Trilloč fournit quelques chiffres.
La tendance est vraiment bonne. Selon les chiffres de 2011,
30% des ordures ménagères sont recyclées et 10% sont valorisées sous forme d'énergie. Le reste va à la décharge.
De bons résultats qu'il convient de relativiser si l'on en croit Ivo Kropacek du mouvement écologiste Hnutí Duha, le mouvement arc-en-ciel qui rappelait au micro de Radio Prague qu'en Allemagne et en Autriche, plus de 50% de ces déchets ménagers sont recyclés, un chiffre qui monte même à 70% en Belgique. Ivo Kropacek notait également que les données n'étaient pas toujours les mêmes en fonction de qui les produisait et qu'il convenait donc de s'en méfier. Une marge de manœuvre importante existe certainement pour développer le tri sélectif. En République tchèque, ce sont les emballages de liquide qui posent le plus de problèmes. Le conteneur orange, prévu à leur effet, est ainsi le moins utilisé. Les Tchèques jettent bien souvent leurs briques de jus d'orange, leurs bouteilles de lait ou de vin dans leurs poubelles classiques. Aussi, un seul de ces empaquetages sur 10 est recyclé. Directeur de la communication de l'entreprise Ecocom, Lukáš Olmus, est conscient de cette limite.
Le nombre de conteneurs orange destinés aux emballages de boissons augmente chaque année. Il y en a actuellement environ 7000. Néanmoins, ils sont évidemment moins nombreux que les autres conteneurs.
D'autre part, on observe un déséquilibre entre les villes et les villages. Dans ces derniers, les habitants trieraient moins fréquemment. Certains évoquent l'anonymat des grandes cités pour expliquer ce phénomène. Pour Ladislav Trilch, il incombe surtout aux communes de mener des politiques volontaristes afin que le recyclage entre véritablement dans les mœurs.
Il y a des communes qui considèrent la gestion des déchets comme une priorité et qui permettent aux citoyens de trier très élégamment toute une série de produits. Au contraire, il y a d'autres communes qui prennent cela plutôt comme une obligation légale. Évidemment, les citoyens sont moins réactifs.
Ainsi, certaines communes ont mis en place des incitations financières au tri sélectif ou facilitent ce dernier en proposant des poubelles permettant de trier les déchets en amont. La République tchèque peut espérer conserver son saladier d'argent. Deux mois après leur victoire à Prague contre l'Espagne, les Tchèques remettaient leur titre en jeu contre la Suisse à Genève ce week-end à l'occasion du premier tour de la Coupe Davis. Malgré l'absence de Radek Štěpánek, qui compensait celle de Roger Federer côté Suisse, ils se sont imposés 3-2 et qualifiés grâce notamment à un Tomáš Berdych, une nouvelle fois vainqueur de ces trois matchs. En quart de finale, les Tchèques se déplaceront au Kazakhstan, la dernière équipe à les avoir battus en Coupe Davis. Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
On peut penser de lui ce que l'on veut. Et c'est vrai que le personnage, notamment pour sa froideur et parfois à juste titre, n'est pas toujours très apprécié sur le circuit tant de ses adversaires que du public. N'empêche, vous trouverez difficilement un joueur de l'élite mondiale représentant son pays en Coupe Davis avec autant d'envie et aussi régulièrement que Tomáš Berdych. Bien que présent en Belgique ce week-end, Novak Djokovic ne défend les couleurs de la Serbie qu'occasionnellement et lorsqu'il en a envie, Andy Murray celle de la Grande-Bretagne exceptionnellement et David Ferrer qui avait choisi de se reposer n'était pas à Vancouver pour empêcher l'élimination surprise de l'Espagne contre le Canada lors de ce premier tour de l'édition 2013. Quant à Roger Federer, qui fait prévaloir ses intérêts personnels et était de nouveau absent contre les Tchèques à Genève, demandez aux Suisses et à Stanislav Wawrinka ce qu'ils en pensent. À 28 ans, Tomáš Berdych, qui court toujours après l'obtention d'un premier titre en Grand Chelem, pourrait donc pourtant lui aussi donner la priorité à sa carrière et laisser de côté une Coupe Davis qui bien souvent lui pompe un paquet d'énergie. Surtout que la préparation aux rencontres, toujours plus exigeante au fil des saisons, n'est plus celle d'autrefois, comme le souligne Ivan Lendl.
Je me souviens qu'il m'est arrivé de voyager en avion pendant la nuit et de jouer tranquillement le lendemain. Personne ne me disait rien, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, les joueurs ne peuvent plus se permettre de telles choses. Il faut qu'ils soient présents avec le groupe au moins 5 jours avant la rencontre pour bien s'y préparer.
Bien se préparer, c'est précisément ce à quoi parvient souvent Tomáš Berdych en Coupe Davis, comme l'ont une nouvelle fois confirmé ses 3 victoires en 3 jours contre la Suisse. 3 points qui ont justement permis à la République tchèque de se qualifier aux dépens d'un adversaire qui, malgré l'absence de Roger Federer, ne partait pourtant pas battu d'avance, surtout pas devant son public. Mais peut-être plus encore que les 100 fautes de Berdych sur le court, c'est aussi son état d'esprit hors de celui-ci qui est loué, comme en convient un des nombreux supporter tchèque qui avait fait le déplacement à Genève.
Tout repose sur les épaules de Tomáš. Tout le monde attend de lui qu'il remporte ses matchs, que ce soit en simple ou en double. Nous, les supporters, au bord du court, le public devant la télévision, les médias, ses partenaires, le capitaine, tout le monde sait très bien que Tomáš et ses victoires sont indispensables. Sans lui, nous n'aurions pas eu les résultats que nous avons eus en Coupe Davis ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui a l'esprit d'équipe. Après les matchs, il vient aussi toujours nous remercier pour notre soutien et c'est vraiment très important.
Bien que complimenté de toutes parts, l'intéressé prend cependant les choses avec une certaine distance et assure que sa participation à la Coupe Davis ne représente pas un sacrifice pour lui.
On joue cette épreuve pour les souvenirs et les émotions qu'elle procure. Les moments que vous vivez sur le court en Coupe Davis, vous ne les revivez nulle part ailleurs pendant la saison. Ce sont des sensations uniques, irremplaçables et que personne ne peut vous prendre.
Lors de la victoire historique en finale contre l'Espagne en novembre dernier, la première dans l'histoire de la République tchèque et la première depuis la Tchécoslovaquie d'Ivan Lendl en 1980, Tomáš Berdych était un peu passé au second plan au moment des célébrations. Vainqueur du 5e match décisif, après une prestation sur le court, il est vrai, pleine de folie et de passion, son partenaire habituel, Radek Štěpánek, avait fait le show et eu droit à tous les honneurs ou presque, reléguant quelque peu dans l'ombre à Tomáš Berdych qui ne s'en était cependant pas formalisé. C'était pourtant oublié que c'est d'abord lui, Berdych, qui avait permis à la République tchèque d'en arriver jusqu'à ce stade de la compétition, entre autres grâce à ses 3 victoires en Argentine en demi-finale. Au terme de la finale, l'envoyé spécial de l'équipe à Prague, Vincent Cognier, n'avait d'ailleurs pas manqué de mettre en avant l'état d'esprit irréprochable tant de Štěpánek que de Berdych pour expliquer le succès tchèque.
Je trouve que c'est une victoire morale. C'est quand même la victoire de mecs qui jouent depuis des années à la Coupe Davis systématiquement, sans se poser la question, comme certaines stars du jeu, de leur carrière personnelle. Donc déjà, c'est une victoire, on va dire, de la persévérance, et c'est bien. C'est la victoire de deux mecs qui portent l'équipe à bout de bras depuis 2007. De deux mecs qui attachent beaucoup d'importance symbolique et affective à cette épreuve, et c'est très beau.
Un peu plus de 2 mois plus tard, les Tchèques remettaient donc leur titre en jeu en Suisse. Bien que privés de Radek Štěpánek, récemment opéré du dos, ils restaient légèrement favoris face à une équipe helvète dont les chances de succès en l'absence de Federer reposaient essentiellement sur les épaules de Stanislav Wawrinka, actuel 17e joueur mondial. À l'issue des 2 premiers simples vendredi soir, les 2 équipes étaient à égalité 1 point partout. Stanislav Wawrinka avait d'abord facilement disposé de Lukáš Rosol en 3-7 avant que Tomáš Berdych n'égalise en dominant Henri Laaksonen, modeste 289e mondial, en 4-7. Comme souvent dans ces cas de figure, le double de samedi s'annonçait décisif. Et après un marathon de 7h01, soit le match le plus long de l'histoire de la Coupe Davis, mais aussi le 2e match le plus long de l'histoire du tennis, ce sont Tomáš Berdych et Lukáš Rosol qui se sont finalement imposés aux dépens de la paire composée de Stanislav Wawrinka et de Marco Ciudinelli en 5-7 avec 24 jeux à 22 dans le 5e set. Au bout du suspense et de l'effort, Tomáš Berdych était forcément très soulagé après un 5e set long de 215 minutes et conclu à la 13e balle de match.
Tak samozřejmě to vítězství chutná skvěle, já jsem nikdy nezažil
Bien sûr, c'est une victoire au goût exquis. Non seulement je n'ai jamais joué un match aussi long, mais je crois n'avoir jamais passé autant de temps sur un court de tennis. Cela dit, même si ça se joue sur quelques points et que les Suisses auraient pu gagner eux aussi, je crois que notre victoire est méritée. Les Suisses n'ont eu que quelques backs de break dans le 5e set. Pour le reste, nous avons tous les deux très bien servi et avons rarement été mis en danger. Inversement, nous avons eu beaucoup plus de balles de match. Il nous en a fallu beaucoup avant de conclure, mais la victoire au bout du compte est encore plus belle. Maintenant, ça ne reste qu'une victoire et il nous en manque encore une pour nous qualifier demain.
Dimanche, le premier match de simple mettait aux prises les deux meilleurs joueurs de chaque équipe, Tomáš Berdych et Stanislav Wawrinka. Et là encore, c'est le Tchèque qui prenait le dessus en 4-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6, offrant ainsi le troisième point salvateur à son équipe.
J'ai bien commencé le match, même si Wawrinka a eu quelques balles de break, j'ai su garder mon service. Inversement, j'ai su moi faire le break dès que j'en ai eu la possibilité. Je pense que Stanislav a peut-être été trop prudent dans les deux premiers sets et cela m'a bien convenu. Ce n'est qu'à partir du troisième qu'il a pris plus de risques et m'a vraiment bousculé. J'avais bien récupéré du match de double de samedi et je me suis vite senti bien sur le court. J'ai déjà joué plusieurs fois contre Stanislav et je dois dire que le match d'aujourd'hui a assurément été mon meilleur contre lui.
Bien que très déçu, Stanislav Wawrinka reconnaissait lui aussi la supériorité de Berdych, comme il l'a confié au micro de la radio suisse romande.
Thomas est un très grand joueur et aujourd'hui encore il a été plus fort sur le terrain, il a vraiment imposé son jeu. Moi j'ai essayé de trouver des solutions, de me battre jusqu'au bout sur tous les points en me disant que j'allais me créer des occasions. J'ai réussi à revenir au troisième set, je me suis créé des occasions au tie break. J'aurais voulu l'emmener au cinquième mais malheureusement il termine très bien le match.
Cette victoire, la sixième d'enfilée en Coupe Davis, permet donc à la République tchèque de se qualifier pour les quarts de finale, où elle retrouvera le Kazakhstan, le dernier pays à l'avoir battu. C'était il y a précisément 2 ans, à Ostrava. À l'époque, les Tchèques, déjà privés de Radek Štěpánek, avaient été éliminés dès le premier tour à la surprise générale. Autant dire qu'ils se méfieront cette année, comme l'a confirmé leur capitaine Jaroslav Navratil.
Oui, nous sommes impatients de jouer cette revanche et j'espère que cela se passera mieux qu'il y a 2 ans. J'espère aussi que Radek Štěpánek sera remis et que nous serons au complet. C'est important car le Kazakhstan est un adversaire difficile. Ils n'ont pas de joueurs très connus, mais ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs chez eux. Il ne faudrait donc surtout pas les sous-estimer. Nous irons donc là-bas avec la volonté de prolonger notre série de victoires et notre aventure, mais il reste encore pas mal de temps et de tournois avant ce déplacement.
Le quart de finale entre le Kazakhstan et la République tchèque se déroulera très probablement à Astana du 5 au 7 avril prochain. Parmi les 3 autres affrontements de ces quarts de finale figure également un Argentine-France dont le vainqueur retrouvera ensuite le Kazakhstan ou la République tchèque en demi-finale. Mais il ne s'agit là pour l'heure encore que d'une perspective alléchante.
C'était la rubrique sportive de Guillaume Narguet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt.